En direct par téléphone, Nina Yorgakov pour son livre Tuer Catherine, qui vient de sortir chez POL et que vous trouvez dans toutes les librairies. Bonsoir Nina Yorgakov, merci beaucoup d'être avec nous en direct par téléphone.
Bonsoir.
Alors une première question. Tuer Catherine, c'est une aventure intérieure, c'est tempête dans un cerveau. Pourtant, j'ai pas l'impression que la psychologie soit présente dans le livre, j'ai pas l'impression que ce soit un roman psychologique, absolument pas. Alors comment expliques-tu cette dichotomie?
Alors oui, donc ta remarque est complètement juste. Ce qui se passe dans le livre, c'est que à la fois au niveau de enfin, les choses se situent dans un cerveau. Donc effectivement, on pourrait s'attendre à quelque chose de psychologique au sens où le cadre, c'est quand même un cadre cérébral. En même temps, on a une multiplicité des instances narratives, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de voix différentes qui nous parlent, ce qui fait que ce cerveau prend aussi des allures d'une sorte de bureaucratie, ou en tout cas une sorte d'institution assez complexe, ce qui fait qu'en fait, on est dans un cerveau, mais en même temps, ça ressemble beaucoup à une sorte de mini-société ou quelque chose comme ça. Donc ce serait comme si il y aurait un monde extérieur qui serait projeté à l'intérieur de ce cerveau. Et effectivement, la dimension psychologique au sens classique du terme est assez absente du livre. Je pense qu'on peut relier ça aussi effectivement au personnage de Catherine et au fait que Catherine, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, je crois, est très fan d'Anna Karénine et de toutes les grandes héroïnes du 19e siècle. Et donc, on est là dans quelque chose de très différent, puisque justement, on n'est pas dans de la psychologie au sens strict du terme.
Et quelle idée du coup de prendre, est-ce que tu as fait exprès de choisir cette figure littéraire emblématique du psychologique, du roman psychologique qui est Anna Karénine?
Alors, il n'y avait pas, disons, c'était pas pensé comme un projet théorique très clair dans mon esprit. Effectivement, après coup, on peut se dire que c'est sans doute pas un hasard si les choses se sont faites comme ça. Maintenant, Anna Karénine, c'est-à-dire le modèle de Catherine, sachant que Anna Karénine, c'est plutôt, je l'ai prise parce que c'est peut-être la figure la plus pure, la plus aboutie justement de ces grandes héroïnes très romantiques, très passionnées, qui ont un destin évidemment tragique. Et j'ai perdu le début de ma phrase. Donc, c'était le choix d'Anna Karénine, c'était pour
Voilà,
ça,
le choix
mais
d'Anna.
c'était aussi le symbole, évidemment, du roman classique. Ça, c'est sûr.
Pourquoi ce symbole du roman classique?
Pardon?
Pourquoi tu voulais utiliser ce symbole du roman classique?
Bah, parce que, sans doute, pour un premier roman, on se pose aussi beaucoup la question de comment je vais me situer ou comment on va situer le texte qu'on est en train de fabriquer par rapport à la littérature, par rapport à l'histoire littéraire. Donc, évidemment, le roman classique, c'est quand même la grande référence par rapport à laquelle on veut se positionner.
Alors, à partir d'une idée simple, un personnage de fiction qui s'installe dans la tête du narrateur, tout de suite tu en fais de la complexité, tu en fais des niveaux de récit qui s'enchâssent. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail considérable sur la forme?
Alors, en ce qui concerne la forme, donc déjà pour expliquer un peu la façon dont ça s'est fait, je n'ai pas du tout écrit le livre d'une manière linéaire, c'est-à-dire que le livre qu'on a entre les mains, je ne l'ai pas écrit de A à Z, à partir de la première page jusqu'à la dernière. J'ai écrit beaucoup de choses en parallèle, donc ça s'est vraiment fait par strates, et derrière il y a eu un travail assez important d'organisation, c'est-à-dire que j'ai beaucoup réfléchi aussi sur l'architecture, la façon dont je pouvais articuler toutes ces dimensions, tous ces morceaux justement qui appartiennent aussi à des univers assez différents. Donc ça c'est la première chose pour le procédé. Ensuite je voulais beaucoup travailler sur l'éclatement du discours, donc avoir justement une multiplicité des façons de faire du discours, des façons de mettre en récit un certain nombre de choses. Et donc j'ai aussi essayé de varier beaucoup les formes, sachant que j'avais à l'esprit beaucoup l'image du cinéma, sachant que le livre n'est pas du tout cinématographique, ça c'est sûr, mais j'avais beaucoup à l'esprit l'idée d'un film, par exemple, qui serait filmé avec une caméra sur laquelle on poserait des filtres différents toutes les 10 minutes, par exemple un filtre rouge, un bleu, etc. J'avais à l'idée ça, pour puisque c'est aussi une façon de rappeler qu'on est en train de filmer quelque chose. Donc pour l'écriture, la variation des formes, c'était ça aussi. C'était insister sur le fait que eh bien, il y a toujours un travail de mise en forme et qu'il n'y a pas de neutralité du discours. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais retranscrire tout simplement le réel ou des choses auxquelles on pense, mais que la forme, elle est toujours présente. Et puis la dernière chose, c'était un aspect ludique, puisque je me suis aussi beaucoup amusée. Et puis j'espère que le lecteur aussi s'amuse en lisant justement ces formes différentes, où il y a beaucoup d'exercices de style. Puisque c'était voilà, il y avait aussi quand même une recherche de ce côté-là.
Tu disais que tu avais fait un travail plan par plan. Tu dis que ton livre n'est pas cinématographique. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est pas un livre cinématographique, mais plutôt un livre théâtral, du fait de cette multiplicité des instances narratives. Et du coup, ce serait pas plutôt un travail scène par scène ?
Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire, quand je parlais du cinéma, c'était vraiment pour à cause de l'histoire des filtres. Je me représentais le livre comme ça quand j'étais en train de le faire. Mais après, c'est vrai qu'on est loin du cinéma. Maintenant, c'est vrai que j'ai une grande affection pour le théâtre, qu'il y a quelques passages qui sont écrits comme des passages de théâtre dans le livre. Après, en ce qui concerne l'agencement scène par scène, je pense que oui, c'est-à-dire on peut voir le livre comme ça.
Alors tu es Catherine, là on va quitter cette réflexion de la forme et on va rentrer dans le domaine de la réflexion théorique sur la fiction. Tu es Catherine comporte de nombreuses réflexions sur la fiction. Oui. Par exemple, j'ai juste cette citation, Catherine est l'incarnation d'un discours. Essayer de l'éliminer par la fiction est donc un jeu dangereux. Et il y a plein de petites citations comme ça où il y a des choses qui ont des enjeux sur la fiction elle-même, la fiction littéraire bien entendu. Alors Catherine, qui elle-même s'imagine être un personnage de fiction, Anna Karenine donc, est-ce que les questions que pose Danton, est-ce que... Ouh là là, je m'embrouille. Catherine elle-même donc... s'imagine être un personnage de fiction, et est-ce que les questions que pose ton livre sont essentiellement des questions fictionnelles ?
Alors, je pense que ce n'est pas la seule question, mais c'est évidemment une dimension assez centrale, c'est-à-dire qu'il y a tout le long du livre une réflexion sur la fiction. Alors c'est assez difficile de résumer ça en quelques phrases, mais disons que la question centrale, peut-être, c'était simplement qu'est-ce que mettre en fiction ? Et c'est là aussi, je pense, qu'on peut faire un lien avec le travail sur la forme, puisque finalement, c'était une de mes réponses, de dire que je pense qu'on ne peut pas vraiment séparer un travail formel sur la langue ou sur le style d'une réflexion sur la fiction, d'où ce jeu sur les formes. Et puis, à travers ça, c'était aussi une façon de justement d'explorer la frontière entre la fiction et puis le réel avec mille guillemets, puisque je ne crois pas vraiment à l'existence du réel en soi, c'est-à-dire je pense qu'on est toujours en train de reconstruire du réel et d'en faire de la fiction, y compris dans notre vie quotidienne, donc c'était, je voulais un peu rendre compte de ça.
Là tu viens de me dire que la question principale de ton livre c'est qu'est-ce que mettre en fiction ? C'est la question principale que tu t'es posée en écrivant « Tu es Catherine ».
Je pense que je me suis posé beaucoup de questions, donc je ne sais pas si c'est vraiment la question principale, mais en tout cas, c'était très présent, c'est-à-dire cette façon d'inscrire une réalité qui, quel que soit le sujet sur lequel on écrit, d'une façon très générale, je pense que le réel, si on est un peu lucide, disons, on se rend bien compte que c'est un amas de choses extrêmement contradictoires, qui n'a aucune cohérence en vérité, ce qui est quand même très angoissant aussi, et qu'on est tout le temps en train de faire un travail de mise en fiction, c'est-à-dire quasiment, j'aurais tendance à dire que être un humain, c'est-à-dire notre travail d'être humain, ce serait de faire des mises en fiction pour justement s'inscrire dans un certain nombre de... pour produire du réel à travers cette fiction.
Du coup, est-ce que ta narratrice dans Tu es Catherine est folle ou est-ce qu'elle fait un travail de mise en fiction ?
Alors, je n'ai pas entendu la fin.
Alors, du coup, est-ce que ta narratrice est folle ou est-ce qu'elle effectue ou est-ce qu'elle est en train d'effectuer un travail de mise en fiction?
Alors, je pense que c'est les deux énoncés ne sont pas forcément exclusifs l'un de l'autre, puisque peut-être que ça peut être une forme de folie, justement, ce travail sur la fiction. Et puis, la folie est une chose assez relative, je pense, d'une façon générale. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le travail de cette narratrice, c'est à la fois essayer de se débarrasser de la fiction que représente Catherine, qui est donc un personnage de fiction qui habite dans sa tête et dont elle veut se débarrasser. Mais pour ça, elle doit produire un récit, puisque le projet initial, c'est quand même de finalement de décrire Catherine pour la figer dans un texte, pour faire qu'elle soit tranquille, qu'elle ait son roman, et puis qu'elle arrête donc de parasiter notre narratrice. Donc il y a forcément un travail sur la fiction de la part de la narratrice.
Oui, puisque la narratrice, sa stratégie pour se débarrasser de Catherine, c'est une stratégie fictionnelle. Oui, parce que c'est par la fiction que la narratrice va se débarrasser de Catherine.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire c'est dit dès le début, c'est l'intention, dès les premières pages finalement, l'intention de départ, c'est se débarrasser de Catherine par la fiction. Je crois que, alors je ne connais pas le livre par cœur, mais il y a quelque chose comme œil pour œil, fiction pour fiction, enfin des choses qui suggèrent complètement cette piste-là.
Et ça, c'est stupéfiant, parce que la narratrice, on pourrait dire qu'elle est un peu schizo.
Oui.
Et donc, tu apportes cette solution de faire de la fiction, pour qu'elle se débarrasse de cet aspect-là.
Oui, alors je n'ai pas complètement compris le sens de la question.
C'est-à-dire que ta narratrice, elle est schizo.
C'est une interprétation.
Non, tu ne l'interprètes pas comme ça.
Je pourrais l'interpréter comme ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la seule interprétation possible. On peut très bien se dire, bon, c'est une fille qui est folle, puisqu'on peut pas avoir un personnage de fiction dans la tête. Donc elle est schizophrène, elle a un problème psychologique. Ce serait une lecture psychologique du livre, en quelque sorte. Maintenant, on peut aussi accepter l'idée qu'elle a vraiment un personnage de fiction dans la tête et que, pour s'en débarrasser, elle doit travailler sur la fiction. Je pense qu'on peut, on n'est pas obligé de choisir entre les deux explications, d'ailleurs.
Et alors, d'où viennent ces multiplicités d'instances narratrices? Est-ce que ce sont des petites voix de la narratrice? Parce qu'il y a beaucoup, voilà, quand on parlait de théâtralité dans Tu es Catherine, effectivement, c'est très théâtral, parce qu'il y a beaucoup de voix ou beaucoup de sortes de personnes dans la tête de Catherine, dans la tête de la narratrice.
Alors, tel que je l'ai conçu, alors encore une fois, ça peut éventuellement se lire autrement. Mais tel que je l'ai conçu, ces petites voix ne sont pas vraiment dans la tête de la narratrice, mais plutôt à côté, puisque finalement, à côté de la narratrice, il y a une sorte d'assemblée de voix qui discutent justement de la façon dont on fait le texte, de ce qu'est la fiction. Parfois, il y a des digressions aussi sur d'autres thèmes, c'est-à-dire c'est un débat assez agité. Et finalement, cette sorte d'assemblée qui est comme un parlement ferait partie de cette bureaucratie dont je parlais au début, et donc aurait des pouvoirs législatifs, c'est-à-dire à un moment, elles procèdent à un vote, elles prennent des décisions, même si c'est assez fastidieux, puisque elles ont des avis assez divergents, donc ça prend, voilà, le débat prend un certain temps. Et donc il y aurait comme ça une sorte d'institution bicéphale, avec d'un côté la narratrice, de l'autre côté l'assemblée des voix, mais il y a aussi d'autres choses, même si c'est pas complètement explicité, mais on pourrait dessiner une sorte d'organigramme avec au-dessus de ces deux instances principales une sorte de direction assez anonyme qui parfois envoie des lettres à la narratrice pour lui dire qu'elle ne travaille pas très bien et qu'elle risque d'être licenciée, par exemple. On a ça dans la première partie. Et puis, à la fin du livre, on voit aussi que il y a des personnes qui sont chargées, par exemple, de la rhétorique, qui sont chargées de la spiritualité, des choses comme ça. Puis je pense ici au procès-verbal qui renvoie à un jugement concernant des morceaux de récits qui ont été censurés. juste à la fin du livre.
Voilà, c'est cette seconde partie aussi, parce que le livre, on pourrait presque dire qu'il est séparé en une première partie, une seconde partie. Dans la seconde partie, il y a cette astuce que le lecteur pourrait être presque libre de son ordre de lecture, c'est-à-dire au milieu du livre, il y a quelque chose qui va s'appeler un entracte. Et
oui.
Dans cet entracte est donnée la suite du livre, juste en deux pages courtes. Et du coup, on peut presque choisir ces chapitres de la deuxième partie pour y aller directement. Et du coup, on pourrait presque dire que on peut lire la deuxième partie dans l'ordre que l'on veut. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle fonction remplit cette technique?
Oui, alors donc effectivement, à partir de la seconde partie, il y a un petit guide qui explique au lecteur que finalement il peut aller dans le chapitre de son choix selon les questions qu'il se pose ou selon les choses qui l'intéressent. Alors déjà, il y a évidemment une sorte de petit hommage, je dis petit puisque c'est assez modeste dans mon livre, à des gens comme Pérec ou Cortazar qui ont fait des livres qui pouvaient se lire dans plusieurs sens, puisque c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, hein, cette idée qu'on puisse faire un agencement de fragments de textes qui pourraient se lire différemment et qui produiraient des histoires différentes ou en tout cas qui s'assembleraient autrement dans la tête du lecteur selon l'ordre dans lequel il les découvre. Donc il y a ça, et puis évidemment derrière il y a aussi disons une volonté de je ne sais pas si c'est remettre en question, mais en tout cas prendre de la distance avec la linéarité pure, c'est-à-dire éviter d'être dans un récit qui commence quelque part, qui est très chronologique et qui se poursuit, tu vois, en continuant étape par étape. Donc c'était vraiment essayer de travailler sur quelque chose de non linéaire. Alors c'est une proposition, c'est une façon de faire cela. Je ne suis pas du tout la première à le faire. Maintenant, il y a peut-être... peut-être aussi d'autres façons de travailler là-dessus.
Dans une dernière question, on a parlé un peu de psychologie ou de non-psychologie. On a dit que la narratrice était peut-être éventuellement schizo. Quel lien entretiens-tu avec les disciplines psychologiques qui semblent être absentes de ton texte?
Alors, aucun lien particulier, ni en positif ni en négatif. C'est-à-dire que je n'ai pas... Ouais, je n'ai pas d'affection particulière pour la psychologie, je n'ai pas non plus de répulsion. C'est plutôt que je m'en tiens un peu éloignée parce que ce n'est pas forcément travailler sur la psychologie qui m'intéresse dans un livre.
Donc, du coup, tu l'as exit.
Oui, enfin, encore une fois, c'était pas vraiment conscient. C'est-à-dire, je ne me suis pas mise à écrire en me disant je vais faire quelque chose qui n'est absolument pas psychologique. Mais sans doute, je ne me suis pas dirigée par là parce que ce n'était pas le terrain qui m'attirait. Je ne sais pas. Peut-être que si on réfléchit, on peut faire un lien justement avec ces questions sur la fiction et sur le fait que finalement j'avais pas vraiment envie de travailler sur une fiction disons avec des éléments très psychologiques au sens classique du terme.
Eh bien, merci beaucoup Nina Yargekov pour cet entretien en direct par téléphone. Merci beaucoup.
Laissez-moi, merci.
Au revoir.
Au revoir.